Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadroboudadi, Daniel Morin, Tom Villa et Pierre-Emmanuel Barré. Et au programme aujourd'hui, Elena Noguera, Guillaume Canet, Clémentine Sellary et Pierre Cassignard. Et en live, François Andy, Atlas Mountains, Edge Burns et Thomas Fersen. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Qui vient de publier un roman. Bienvenue, Elena.
Mais merci,
on
bienvenue
ravis,
à vous.
On est ravis de vous accueillir.
C'est joli chez vous.
Ouais.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Ouais, ouais.
Ouais, alors, quand à la radio, tu dis c'est joli chez vous, on a l'impression que tu es en train de parler d'Elena, comme si tu visitais Elena et un appartement.
Non, mais c'est ce qu'il disait.
Pas, complètement malade, Nagui.
Mais non.
Faites pas attention, Elena. Faites pas attention.
C'est un esprit, c'est un état d'esprit.
Elle est ravissante.
Elena est un monument qui ne se visite pas.
Voilà. C'est ça.
Waouh.
Ouais, voilà,
est-ce que vous avez compris, Tom,
ouais.
Tom, est-ce que vous avez compris? Alors j'ai peur que vous n'ayez pas compris.
De quoi?
Non, vous n'avez pas compris pourquoi on a invité Elena.
Encourage-le un peu.
Ah, vous n'avez pas compris non plus pourquoi on a invité Tom.
C'est quoi?
Je t'emmerde. Comment tu parles à la vie, t'es toi?
Non, vous avez le droit de dire des gros mots.
Ça dépend. On est dans les deux premières
minutes.
Non, si j'ai une idée, Nagui, pourquoi on a invité Elena Noguera? Pour la parité. Parce que quand on parle de bouquin ici, c'est toujours avec des vieux et chauves. Donc du coup, ça permet de.
Vieux et chauves.
Bah si, enfin on a reçu Dan. Donc voilà, un petit peu d'amour dans ce studio.
Il est pas chaud.
Leïla Slimani.
Ouais, mais
il
est chaud. C'est à l'autre.
Tu l'as pas vu tout.
Un petit peu d'amour dans ce studio, ça fait du bien quand même. Oui. Bonjour Elena Noguera.
Bonjour.
Et puis pour l'Europe aussi, hein, messieurs, dames. Une belge d'origine portugaise qui vit à Paris, quel meilleur moyen d'emmerder les Anglais. Ça fait plaisir. Alors Elena, c'est le talent multipasse, musicienne, actrice, romancière. Elena Noguera, c'est pas une artiste, c'est un couteau belge. C'est comme un couteau suisse, mais qui boit de la bière.
Pas mal.
Elena, vous êtes avec nous pour nous parler de votre troisième roman, ça s'appelle Ciao Amore, qu'on pourrait traduire par Salut Amour, voilà, parce que j'ai fait 6 mois d'italien, j'ai bossé chez Pizza dell'Arte.
Moi aussi.
C'est vrai? Où ça, lequel?
Je faisais leur voix à un moment.
Ah oui, moi j'étais.
Pour 3,50€, vous avez telle pizza avec du saucisson, enfin des trucs.
Oui, mais dis comme ça, ça donne pas envie, par contre.
Non, mais je
vous ai mis cette pizza. Vous étiez payé?
Daniel, il faisait pas strami, Daniel.
Alors, Ciao Amore, c'est l'histoire d'un road trip amoureux entre Paris, Nice et l'Italie. On dirait le trajet de Tony Musulin, le braqueur au fourgon. Et en même temps, c'est bien pour un livre d'amour, parce que c'est un road trip amoureux entre Sedan, Roubaix et Charleroi.
Ça peut, mais c'est autre chose.
Il y a moins d'amour,
c'est
quand
plus
même.
Belge.
C'est le scénario des Dardennes.
Oui, c'est ça.
C'est moins consentant.
Le pitch, c'est Cléophée, qui a 28 ans et elle s'ennuie.
Ouais.
Putain, s'ennuie à 28 ans quand même, ça sera quoi quand elle sera à la retraite avec ses
journées
devant Télématin,
souvent,
la dépression.
Elle s'ennuie jeune.
Ouais, mais 28 ans, elle a toute la vie devant elle. Enfin bon, bref, c'est un autre débat.
Il a pas tout compris.
Et le truc de Cléophée, c'est qu'elle cherche l'amour. Alors, un conseil, change de prénom. Tu m'étonnes qu'il y ait galère. Cléophée, on dirait un nom de bagnole. Je veux dire, remarquez, on se moquera pas des prénoms parce que votre sœur Elena, une lettre près, c'était une voiture aussi.
Donc, moi aussi, c'est une voiture, là, Elena.
Ah bon, laquelle?
C'était une voiture dans une marque. On dit les marques et tout?
Bon, on s'en fout.
Je crois que c'était Citroën, non? Qui avait la Elena.
Ah bon, d'accord.
Il y a que Daniel qui connaît, comme par hasard. Donc, revenons à Cléophée, qui finit par trouver l'amour en la personne de Ferdinand. Vous m'obligez à y revenir. C'est quoi ce problème avec les prénoms? Ou alors votre histoire est au 19e siècle et vous avez fait beaucoup d'anachronismes.
Non, mais 60, vraiment... 19e. Ah bah oui, non.
Bon, on fera pas de maths. Non mais vraiment, on s'attarde pas sur les prénoms, surtout la présence de Nagui, ça devient gênant.
On laisse tomber les prénoms, c'était
le résumé sur le quatrième de couverture. Le premier qui m'interpelle, je l'aimerai pour toujours et il devra m'aimer en retour, sinon je le tue.
Ouais,
c'est pas pour jouer les clichés, mais j'espère que l'héroïne va pas se balader du côté de Barbès ou de Château d'Eau, parce qu'elle va recevoir de l'amour. Mais il va y avoir des meurtres, parce que, non mais c'est vrai, le premier qui m'interpelle, je l'aimerai pour toujours.
Ouais,
mais mademoiselle, hé salope. Bon bah voilà, il y a de l'amour, mais au fond d'une poubelle. Donc bref, Elena, vous revenez également au théâtre bientôt, en avril prochain, dans la pièce Vera. Qu'est-ce que c'est encore ce truc de prénom? Bon, c'est pas grave, Nagui, si vous aimez les romans d'amour et les prénoms très chelous, Ciao Amore, et fait pour vous.
Merci, Tom Villa.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale. Avec Nagui.
Une histoire d'amour où cette Cléophée, en effet, est un véritable poison.
C'est vrai.
En fait, pour tous ceux qu'elle croise. Vous dites même, je crois, de mémoire, la phrase écrite, c'est qu'elle est condamnée, à mort dans le couloir de l'amour.
Ouh là là, oui.
Non, mais c'est votre formule.
C'est vrai, c'est vrai.
Ce n'est pas qu'un jeu de mots, mais c'est vrai que c'est forcément un destin tragique qu'elle a décidé suite à une rupture ou à une déception amoureuse. Elle se dit, ok, puisque c'est ça, comme tu l'as dit, comme c'est la quatrième de couverture, le premier que je croise, je vais être amoureuse de lui, il a intérêt à m'aimer, sinon je le tue.
Oui.
Et elle a vraiment un gun en plus.
Elle a vraiment un petit gun dans son sac.
Un okazu.
Un okazu.
Comme c'était sa grand-mère qui disait un okazu. Et c'est très musical ce roman, le titre lui-même. Mieux vaudrait la haine.
On aime.
Que l'indifférence. Mais je veux Ciao Amore, qui est une chanson chantée par Dalida et qui est aussi liée à la mort,
oui,
puisqu'elle l'avait chantée, voilà, le moment tragique où elle était avec Luigi Tenco, enfin,
à Sanremo.
Exactement, où il avait perdu le concours, mais surtout, il
en chantant cette chanson-là aussi.
Et il s'était suicidé. Ce qui ne faisait qu'une tragédie supplémentaire chez Dalida. C'est de cette chanson qu'est partie cette idée de lier aussi intimement l'amour et la mort, surtout.
Ah, l'amour et la mort. Non, ou peut-être oui, mais après ça c'est...
Je sais pas, demandez-vous.
Mais je ne sais pas, c'est des choses un peu, je dirais que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ça c'est dans une autre chanson. Et donc je ne sais pas d'où ça vient, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est souvent un prénom qui m'amène une histoire. Donc Cléophée, j'ai trimballé ce prénom très longtemps avec moi. Je l'avais lu dans le L, genre une fille un peu, une hit girl avait appelé sa fille Cléophée et je l'ai noté dans un coin. Je dis « Ah, j'adore ce prénom. J'entends la fée dedans, Cléo sans doute de 5 à 7, mon amour pour la nouvelle vague.
» La muse.
Voilà, et petit à petit, ça fait son chemin. Donc,
oui, il y a un côté légende féerique, ouais.
Un peu, oui. Ouais. C'est un prénom qui me semblait un peu mythique, mystique.
Donc, quand Tom dit vous avez un problème avec les prénoms, c'est pas loin d'être.
J'adore les prénoms.
Mais en tout cas,
je suis fan de prénoms.
Pour vous, ils sont chargés de mystère et.
Oui, puis ils me créent des envies d'écriture. C'est-à-dire que là, je parlais avec mon éditeur et je disais j'aimerais bien écrire un roman où les héros seraient Robert et Bertrand. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais...
Boucher, a priori.
C'est un bon début, en tout cas.
Voilà, mais vous voyez que ça évoque des choses.
Bien
pour
sûr.
Vous dites tout de suite boucher.
Ouais. Parce que moi, c'est un mec optimiste.
Non, mais c'est pas ça.
Non, mais
parce qu'il y a un couple de bouchers homosexuels.
C'est quoi, il y a une forme de déterminisme dans le prénom? On pourrait imaginer une histoire en lien avec le prénom?
Ouais, peut-être. Il y a toujours
En tout cas, il n'y a pas que ça dans le roman, parce que là, je nous trouve réducteurs dans...
Merci, justement.
Ce qui est très beau, on a présenté Cléophée comme une héroïne un petit peu damnée, on va dire comme ça, mais elle est surtout virevoltante, elle est complètement fantasque, fantaisiste, elle est très attachante. Moi, j'ai beaucoup aimé votre héroïne.
En tout cas, elle est attachante?
Ah, moi, je la trouve très attachante.
Ah, tu me fais super peur. Parce
moi, je la trouve très attachante parce qu'elle est dans un absolu de l'amour. Elle a une vision qu'on peut critiquer, bien sûr, mais elle est dans un tout, elle se donne entièrement, elle est dans une envie d'absolu. Et moi, je trouve que c'est un personnage de roman fantastique de ce point de vue-là.
Mais c'est marrant parce que donc, moi, je l'ai écrit comme vous le décrivez, Leïla, mais c'est souvent ressenti comme vous le ressentez aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux lectures. Il y a ceux qui adorent Cléophée et qui la suivent justement dans cette quête d'absolu et cette envie romanesque, comme un enfant qui veut faire de sa vie un film et qui ne se rend pas compte que les actes auront des conséquences plus ou moins tragiques, mais qui sont un peu dans une espèce d'inconscience totale, et d'autres comme vous qui la ressentent comme un poison, manipulatrice, dangereuse.
Ah, mais comme un
vécu, ça.
Quand quelqu'un prend un gun et dit bah, tu sais quoi, on va faire l'amour et puis après je vais te tuer, à la base il y a un côté menthe religieuse qui est pas rassurant pour le mal que
c'est identifié à l'homme, tu t'es senti en danger.
Oui, et puis peut-être que vous êtes plus concret peut-être que Leïla en général dans la vie, même peut-être que vous êtes sans doute plus rêveuse, non, et peut-être que Nagui serait quelqu'un de,
alors, je dirais,
de
je
plus
très,
rien et de plus concret.
Je suis Leïla, aime faire l'amour sous la menace.
On avait dit qu'on n'en parlait pas, une heure de grande écoute.
Ce qui est fort chez Cléophée, c'est cette notion qui peut être un jeu et une excitation de se dire là, et c'est un jeu, enfin je sais pas, je pense que tout le monde joue à ça, enfin moi j'aime beaucoup jouer à ça aussi.
Allez-y Nagui.
Non mais comment on fait quand on est gamin, c'est-à-dire on marche sur un trottoir, il faut jamais qu'on coupe une ligne horizontale et où on se dit tiens, si au moment où j'arrive le feu est de telle couleur, ou si la prochaine
voiture rouge,
exactement,
c'est que
on
ça
fait
va
des espèces de petits paris, et exactement des petits paris, des petits défis avec ça sera une bonne journée si la prochaine voiture qui passe là,
ça s'appelle enfant unique.
Non, moi je continue à jouer à ça, et c'est pour ça que moi je trouve que Cléophée elle est magique pour ça, parce qu'elle rétablit quelque chose de l'enfance. Alors bien sûr c'est pas un personnage très stable, on va dire, sur plein d'aspects, mais cette folie qui la conduit tout d'un coup à prendre sa voiture, à partir pour la Baie des Anges, parce que c'est un film qui lui évoque quelque chose de merveilleux.
La première folie,
je trouve ça d'un romantisme absolu.
Arrête de parler quand tu te fais couper.
La première folie du roman, c'est
le prix déjà.
J'attends là, et le premier mec qui m'adresse sa parole, je jette mon dévolu sur lui, sans qu'il y ait aucun filtre de beauté, d'intelligence, de beauté intérieure, de beauté extérieure.
Elle croit ce garçon, elle lui allume sa cigarette, elle l'allume à plusieurs reprises.
Dans tous les sens du terme.
Voilà, ouais. Et finalement, on voit bien qu'elle est déterminée et en même temps, tout d'un coup, elle a une timidité excessive parce qu'elle se rend compte que le jeune homme qu'elle va de rencontrer est peut-être un petit peu plus dominant qu'elle. Et là, elle perd toute sa folie qui pourrait t'inquiéter. Elle devient juste une simple jeune fille qui a le ventre qui palpite, le cœur qui bat la chamade, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais ça m'émeut, je suis très émotive en ce moment. Donc ça m'émeut de voir... comment on rend ce que j'ai... Enfin, voilà. c'est bien.
Bon.
Je sais pas quoi vous dire.
Mais bien, non,
pas
rien.
Non, mais elle a... Mais si, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis hyper émotive. Je vais vous dire après.
D'accord. Très bien. C'est très musical. On va en profiter.
Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day.
Est-ce que c'est la musique qui est importante dans votre roman aussi ou est-ce que ce sont les paroles des chansons? Parce que elles, oui. Certaines chansons sont citées par leur interprète et citées dans leur musicalité parce que justement l'héroïne danse et d'autres ce sont uniquement quelques phrases qui peuvent aider à la narration.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay.
Donc quelle a été votre démarche, le texte ou la musicalité?
Oui, le texte, c'est en fait les chansons de circonstances, comme on fait tous, c'est-à-dire qu'une situation nous déclenche le souvenir d'une chanson qu'on peut ou pas chanter ou qu'on chante en soi. Et comme j'adore la musique et je suis plutôt
chanteuse
et musicienne, du coup, effectivement, ça me semblait naturel. D'ailleurs, j'ai fait des BO, vous avez vu ou pas? Il y a un site avec des petites...
Oui, il y a même des vidéos que vous avez tournées, mettant en scène votre nièce.
Oui, c'est Mia que je filme parce que j'aimais bien l'idée de faire une bande originale du livre.
On aime bien nous aussi. Ouais.
Voilà.
Et c'est un peu pour ça qu'on a appelé cette émission comme ça. Voilà. C'est vrai que la BO est très importante parce qu'elle donne aussi une couleur d'abord de la période, de l'endroit où ça se passe. On voit bien la notion de voiture, de bolide, de partir vers le sud sans trop savoir où l'on va, de ces jeux aussi qu'ils font entre couples, c'est-à-dire de jouer au côté on se connaît pas, ouais. On se parle pas, génial. On recommence à se draguer, on recommence à dire bonjour, vous avez l'heure, vous avez du feu s'il vous plaît, et ainsi de suite, ou alors de jouer comme si c'était une vieille histoire, une vieille connaissance. Elle est quand même, alors tu parlais de ce qui se passe dans son ventre, elle est quand même dans un appel d'amour et un appel charnel auquel lui ne répond pas.
Oui, lui il est en résistance.
Et c'est là où les rôles sont un tout petit peu inversés, on a le sentiment que dans le cliché, c'est souvent
les garçons qui chassent.
C'est l'homme qui, oui, et puis c'est l'homme qui veut, d'ailleurs vous le dites dans votre roman, qui veut tirer son coup et partir, là c'est elle qui va inverser la musique. Ouais.
Oui c'est ça, et comme disait Leïla, en fait elle veut être une héroïne de roman ou de cinéma, donc elle crée ça. Donc en l'occurrence c'est une héroïne de roman, ça n'est quand même qu'un roman. Ouais. Mais donc c'est une espèce de mise en abîme de ce que ça peut aussi impliquer de voir des films, de rêver avec les films, de lire et de
s'inventer une vie.
Et de s'inventer cette vie, donc elle le fait parce que de fait c'est moi qui l'ai écrit et c'est un roman. Donc j'aimais bien jouer aussi avec ça, c'est-à-dire que en fait on en parle comme si c'était une vraie personne, mais en fait c'est quand même une héroïne de roman, donc tout ce qu'elle fait n'est pas si dangereux que ça puisque elle est dans le roman, mais c'est ce qu'elle veut. Oui. Elle veut être une héroïne de roman, donc j'ai exaucé son vœu.
Et elle est très moderne.
Et il y a des moments où on sort de la temporalité des années 60, dans lesquelles le roman se situe.
Il n'est pas en 60, mais il fait très 60.
Et il fait très 60, il fait très Riviera, oui, c'est ça.
Il fait très Riviera, effectivement. Moi, j'ai beaucoup aimé les romans de Françoise Sagan. Et et par exemple les films de Godard, de la Nouvelle Vague. Donc effectivement, on sent ça. Mais j'ai essayé d'en faire. En fait, ils vont dans les boîtes de nuit d'aujourd'hui.
Absolument.
Voilà. Ils écoutent.
Ils écoutent de tout dans tous les sens. Ouais. Et puis il y a même qui a été reprise parce que alors on a la version. Je crois qu'on a d'ailleurs la version de Blackbird chantée justement par.
Par la petite.
Par Nubia Esteban. Vous auriez pu elle le fait très bien, mais vous auriez pu le faire vous aussi.
J'aurais pu, j'aurais voulu, je suis jalouse. A posteriori, je suis très jalouse, que j'adore ces chansons et qu'effectivement, j'adorerais les chanter. Mais je trouvais plus judicieux de prendre une voix inconnue, pas chanteuse, pour que ce soit vraiment l'incarnation de Cléophée, comme si elle chantait dans son salon. Il y a des maladresses, il y a un peu de... bah, elle n'est pas chanteuse, donc il y a quelque chose de très frais, de très naturel dans sa voix, et elle est vraiment Cléophée. Si je commence moi à chanter Cléophée, alors on est dans un... on ne comprend plus... enfin, je ne sais pas si on comprend bien, mais on comprend encore moins bien.
Quand vous dites que Cléophée est une héroïne de roman, oui. Vous trouvez que c'est la femme moderne, celle qui maintenant décide plutôt que celle qui est manipulée ?
Cléophée en soi, je ne sais pas si c'est la femme moderne, mais en tout cas, je pense que vous le savez, je suis plutôt féministe et engagée et de plus en plus militante. Et je pense que oui, c'est un portrait de femme avec du caractère, qui décide sa vie, plutôt une femme forte. Ouais. Ce n'est pas une, c'est une insoumise en
tout cas. Et féministe ne voulant pas dire pas sexy, parce que c'est important aussi de le préciser.
Oui, je sais que le mot fait peur souvent aux hommes, même aux femmes, elles ont peur de le dire et d'être moins aimées, moins sexy par les hommes, mais non, pas du tout, regardez.
On peut être féministe et être en robe sans culotte.
Mais bien sûr. C'est
le... Enfin, je ne parle pas de vous, là, je parle de votre héroïne.
Parlez de votre dimanche, Nagui.
Non, c'est dans le roman. Non, non, je ne m'appuie que ce qui est dans le, dans le roman.
Oui, féministe, ça veut pas dire. Ça veut juste dire qu'on veut. On veut la même liberté que les hommes.
Féministe, ça veut pas dire mal baiser. Ça veut oui, juste dire.
Et puis, ni désexué. Maîtresse on est sexué. Destin, ouais. On est des êtres vivants avec du désir et des envies, des pulsions tout à fait les mêmes.
D'ailleurs,
mais
dans votre écriture.
On veut la même chose.
Dans votre écriture, vous la désirez un peu. Cléophée. C'est-à-dire vous êtes très sexy avec elle, plus qu'avec les hommes.
Ah, vous
dans
trouvez
vos descriptions.
Ah
ouais.
Ouais, c'est marrant. C'est possible qu'il y ait une volonté, ou en tout cas un amour pour les héroïnes, peut-être par, comment ça s'appelle, identification.
Ouais. Mmh.
Sans doute que... Ah, tiens,
sans doute que votre portable sonne un tout petit peu.
Sans doute que mon portable sonne également.
Répondez, hein.
je l'avais mis sur avion et puis j'ai voulu écouter des chansons.
Ah, ben là vous l'avez mis sur bateau apparemment.
Plus, oui.
Ah oui.
Il n'est plus de passé.
Ça, c'est votre sœur qui chante et la même version chantée par sa fille, Nubia. On ne va pas divulgâcher la fin du roman.
Je vous avais interdit d'utiliser ce mot.
Mais non, on l'aime bien.
Mais non, c'est bien, c'est mieux que spoiler.
À chaque fois, vous l'expliquez, ça prend 10 minutes.
Ok, d'accord, on passe à autre chose. Elena Noguera, signe Ciao Amor, son roman chez Flammarion, qui plaira autant aux garçons et aux filles, même si garçons et filles n'auront pas la même perception ni le même point de vue. On l'a bien compris, Leïla et moi.
Non, mais c'est pas garçons ou filles, parce qu'il y a plein de filles qui ont le même que vous. Là, en l'occurrence, c'est garçons et filles, mais il y a plein de femmes qui la sentent comme vous.
Donc il y a autant de romans qu'il y a de lecteurs.
Mais je pense, ouais.
Pour reprendre la phrase que Daniel Pénac avait dite à ce micro. Oui. Lorsqu'on vous annonçait la venue d'Elena Noguera, vos oreilles ont sifflé et je vous ai même entendu poser un petit cri.
Oui, je suis ravie de vous avoir, Elena Noguera, vraiment parce que je vous aime beaucoup. Vraiment, sincèrement. Et j'ai beaucoup aimé Ciao Amore et moi, j'adore Cléophée. Parce qu'avoir une telle bande originale, ça ne peut pas être un mauvais personnage. en tout cas, immédiatement, quand j'ai pensé à vous, Elena, j'ai pensé à un homme de théâtre que j'aime beaucoup. C'est Martial Difonzobo, qui vous a mis en scène notamment dans Une femme avec Catherine Yégel. Et à qui l'on doit, pour rappel, la mise en scène de Démon de Lars Noren qui est passé au rond-point. On en avait parlé pendant cette émission.
Oui.
Je crois savoir que travailler avec lui vous a demandé de combattre votre timidité. Mm-hmm. Vous l'avez un peu abordé, même franchement.
Oui, oui, je suis allée, j'ai fait un peu comme dans les films américains. Ouais. Je suis allée le voir au théâtre, puis j'ai attendu à la sortie des artistes qui sortent. Donc la première fois, il était avec Karine Viard, donc je l'ai accompagné marcher avec eux en disant « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Et puis comme il est très sympa, il m'a dit « vous voulez venir boire un verre avec nous ?» J'ai dit « bah non ». Parce que je me disais, je vais m'asseoir là, puis je vais leur dire, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais. J'y suis pas allée, mais petit à petit, j'ai continué, puis j'ai écrit une pièce que je lui ai envoyée, et puis j'ai créé des rencontres jusqu'à ce qu'il, je pense, s'habitue un peu à moi. Et puis finalement, à peu près 5-6 ans après, il m'a proposé un rôle dans Une femme avec Catherine Yégel, parce que c'est un peu mon metteur en scène préféré.
Voilà votre part de Cléophée.
Oui, oui,
De choisir quelqu'un et de ne pas lâcher.
Il y a du Cléophée en moi, évidemment, mais j'ai ça, oui. J'ai rien à perdre, donc si je gagne, c'est bien.
Oui, vous risquez simplement une chose, c'est qu'il dise oui.
Oui, et puis même s'il dit non, normalement, je pars perdante. Je me dis, de toute façon, personne
m'attend. S'il dit non, c'est normal, oui.
En principe, c'est non. Donc, comme j'ai rien à perdre, si c'est oui,
tant mieux.
Winner.
Et est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça, du théâtre, du cinéma, de la littérature, que vous avez envie de rencontrer et pour qui vous seriez prête à mettre en place la même démarche?
Oui, il y en a plein, mais j'appelle des gens, je les rencontre, je vais les voir, j'essaye de monter des projets en prenant des avions.
Vous n'êtes pas si timide que ça, alors?
Bah, je vais au-delà, en fait. Je me bats contre cette angoisse. C'est une grande angoisse, mais je trouve ça romanesque, en fait. C'est-à-dire que je m'amuse toujours des situations. J'ai pris une fois un avion pour aller voir Manara à Florence pour un projet en construction. Et en fait, ça les a tellement fait rire que j'arrive là-bas toute seule, sans une grosse équipe, sans argent, pour lui dire « Moi, j'ai pas d'argent, hein, je veux juste des dessins. » Que finalement, il disait « Bah oui. » On va le faire.
Pauvre fille, non mais là vous dites.
Non, mais parce que c'est marrant.
On va lui faire des dessins. Non,
oui,
c'était pas
parce
que ça.
C'est... Mais non, mais c'est parce que ça les a touchés. Ils ont trouvé c'était ça sincère. Marrant, lui et son manager.
Parce que la démarche était sincère et pas, voilà, et pas donc, merchandisée.
Donc ouais. Je le fais, je paye mon avion toute seule, personne ne le paye. Mais donc j'ai ça de Cléophée, effectivement. C'est que.
L'instant.
Même s'il me dit non, je trouve romanesque de prendre un avion pour aller voir Manara, le rencontrer. Ça me suffit.
Oui, on n'a pas perdu sa journée déjà.
Vous avez pris beaucoup de vestes en agissant comme ça?
Bah oui. Plus que, en fait, ce qui est visible, c'est ce qui fonctionne. Mais après, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas du tout.
Quand je pense à vous, je pense aussi à une anecdote que vous avez racontée. Elle concerne le peuple Maasai que vous avez côtoyé lors d'une séance photo au Kenya quand vous étiez mannequin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple Maasai ?
Alors, je vais synthétiser, mais c'est très simple, c'est que de les voir, de s'en rendre compte, qu'ils soient pas dans un documentaire à la télé, mais d'y être confrontés. J'ai vu qu'ils allaient très bien sans nous et qu'ils avaient leur vie tout à fait indépendante de la nôtre. Et donc, ça m'a complètement relativisé ma vie de mannequin, où c'était très important d'avoir la couverture du Vogue ou pas. Et je me suis dit, mais en fait, les Maasai s'en foutent, Claudia Schiffer ou pas Claudia Schiffer, que j'ai cette couverture ou pas. Et en fait, depuis, j'avais donc 15 ans à l'époque, donc 30 ans, un peu plus de 30 ans sont passés, puisque j'en ai 47 aujourd'hui. Et en fait, je me dis toujours, bah, les Maasai s'en foutent. Donc le livre sort aujourd'hui. Mais les Maasai s'en foutent. Donc, ça me permet de rester humble face aux situations. C'est que finalement, ben oui, je l'ai fait avec sérieux, mais après, ils s'en foutent.
Ils ont le Wi-Fi maintenant, les Maasai. Hein.
Mais je crois qu'ils s'en foutent quand même.
On est beaucoup podcastés chez les Maasai.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale. Avec Nagui.
Dans le studio, c'est François Andy Atlas Mountain avec cette reprise donc de Didi spécialement pour l'émission.
Enna bahaliya wint yalla men deri kebera men ebki alek le zahalami munhar gubzin didi. Di 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 zindi wa di di wa di di wa di 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 ezinde ye hire. Mendere kebera men epkalek, mendere kebera men eskalek. Rezalami mullahar gubzin di di.
I need
François Diatas Montaigne.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Mais d'abord, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré.
Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est des fines tranches de chacrue posées sur du riz? C'est un sashimi. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va s'intéresser à cet endroit sombre, humide, très sale dans lequel on a laissé rentrer trop de gens. Et je ne parle pas des fesses de Daniel. Jing. Les prisons, c'est très très bien. On est logé et nourri, on se fait des relations avec des truands et on trafique alors qu'on est là pour le bien de la société. En fait, la prison, c'est comme l'Assemblée nationale, sauf que parfois en prison, il y a des innocents. Ouh ! Alors, vous le savez, souvent, quand je suis énervé, je dis oui, ce serait bien que Sarkozy, Cahuzac et Balkany finissent en tôle et qu'ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen de se laver les dents, ce soit de mettre du fluocaryl sur le gland de leur voisin de chambre. Eh bien, c'est complètement faux. C'est complètement faux. En vrai, mon rêve, histoire qu'ils voient un peu ce que c'est la vraie vie, ce serait qu'on prenne tout leur pognon, qu'on les foute dans une barre à la Courneuve et que de temps en temps, quand même, ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen d'éviter les caries, ce soit de mettre du Colgate sur le prépuce de leur voisin de palier. Parce que pour être franc, même le pire des fils de pute, je lui souhaite pas de finir en prison. Ah ben, la prison en France, hein, c'est l'inverse du handball. On est des grosses merdes. Pour imaginer notre niveau en prison, remplacer Nicolas Karabatic par Gilbert Montagnier et Thierry Omeyer par Philippe Croison. S'il y a un tournoi, on a du mal à jouer les premières places. Il y a quand même deux fois plus de suicides dans les prisons françaises que dans les autres prisons européennes. Alors excusez-moi, mais quand tu préfères te pendre plutôt que de passer une nuit de plus dans ta cellule, soit t'es vraiment trop à cheval sur la literie, soit t'as plus la force pour une nouvelle journée de détention. Et vu le nombre de prisonniers qui arrivent à se pendre avec leurs draps, le problème c'est pas la qualité du linge. En matière de surpopulation carcérale, par exemple, la France est entre la Moldavie et la Macédoine. Putain, la Macédoine, quoi. C'est le cinquième pays le plus pauvre d'Europe. Leur seule fierté, c'est une salade à la mayonnaise dégueulasse qui ferait passer le taboulé pour une création de Paul Bocuse. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont même pas de candidat à l'Eurovision, mais on a les mêmes prisons qu'eux, quoi. À Fresnes, les cellules, elles sont occupées à 202%, et la moyenne nationale, c'est 115 détenus pour 100 places. Alors, j'ai pas fait maths sup, hein, mais je peux faire le calcul, 100 divisé par 115, hein, pour que ça rentre, il y a forcément un prisonnier qui doit en avoir un autre dans le cul. Hein. Quand t'es à 4 dans 9 mètres carrés, c'est plus les lits qui sont superposés, c'est les mecs. Hein. Alors à ça, tu rajoutes la bouffe dégueu, l'humidité, les rats, les insectes, les maladies, bon, en gros, tu prends Koh-Lanta, t'enlèves la plage, Denis Brognard, le chèque du gagnant, et t'as les prisons françaises. Hein. Même si c'est l'enfer, les prisons, tout le monde s'en branle. Hein, quand on est dehors, on se dit que ceux qui y sont, bon, ils l'ont bien mérité, que tant pis pour eux s'ils en chient, que la prison c'est une punition, c'est pas un hôtel. Et puis un beau jour, on rémunère sa femme comme assistante parlementaire fictive pendant 26 ans et paf, on se retrouve à genoux dans les douches avec deux grosses bites de cerbe au fond de la gorge, à regretter de ne pas avoir profité de ses 36 années de mandat pour améliorer un petit peu les conditions de vie des détenus. Hein. D'ailleurs, à la limite, si la détention c'était efficace, je dis pas, mais il y a deux fois plus de récidives après une peine de prison ferme qu'après une peine alternative. Hein. Et si les mecs retournent en tôle, c'est pas que la soirée choucroute au verre pilé du vendredi leur manque, c'est parce que les seuls trucs que t'apprends en prison, c'est des nouvelles façons d'y retourner. Hein, c'est pas de la réclusion, c'est de la magie. Tu mets un dealer de shit à Fleury, t'attends 6 mois et abracadabra, tu récupères un braqueur. T'enfermes un voleur de scooter qui a un rhume, hocus pocus, tu ressors avec un djihadiste qui a le sida. Et malgré ça, au lieu de proposer le développement des peines alternatives et la rénovation des maisons d'arrêt, le Fillon, là, et le Pen, ils continuent à faire leur campagne en disant qu'il faut plus de cellules. Eh ben, il ferait mieux de retaper les barres à la Courneuve, parce que quand on appliquera mon programme à moi, ils auront besoin d'une moquette confortable pour pas se râper les genoux quand ils se feront laver les dents par le voisin de palier. Merci de m'avoir écouté.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Pas tous les jours qu'on entend fluocaryl sur France Inter.
C'est vrai.
Mais j'ai rajouté Colgate derrière.
Passe un petit clin d'œil aussi au film. Hein. Il y a beaucoup de coucou présents dans Rock'n'Roll, ce qui est très rock'n'roll. Puisqu'il rentre chez lui à heure fixe. La bande originale, d'abord, la bande originale du film, c'est Guillaume Canet qui chante Ça plane pour moi. Yeah, rock'n'roll!
Bois ma manche à plage, j'suis sur mon lit, à bouffer ça dans l'enlevé, vendant mon whisky quant à moi. Peu dormi, vidé, brimé, j'ai dû dormir dans la gouttière. J'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois.
Là, vous êtes au faire un kiff aussi.
Ah ouais, énorme. Avec tous mes potes, avec Jérôme Goldé, Patrice Renson, Maxime.
C'est que des bons en plus, hein. C'est des purs musiciens.
Ouais.
pur musicien. Donc ça, c'est sur la BO qu'on, en vente libre, qu'on va pouvoir acheter, le Saplane pour moi, avec toujours le challenge, je rappelle, de venir le chanter dans Taratata avec,
avec plaisir,
ses copains musiciens. Avec je vais faire comme Alain Attal, que si Malin Cotillard fait les chœurs, sinon je vois parce que c'est ça dans le film aussi, quoi que vous fassiez, c'est ah non, mais il faut que Malin Cotillard soit là.
On va laisser accoucher avant.
Je vous ai déjà vu jouer tous les deux au Cirque d'Hiver notamment.
Ah oui, c'est vrai.
Pour Solidarité Sida.
Ouais, on avait chanté avec Mathieu Chédid, une reprise de Rodriguez.
Simone étant son pseudo de musicienne rock'n'roll.
Voilà, c'est ça.
Simone. Mais là, elle fait Taratata, pas encore Guillaume. Ouais. Rock'n'roll, c'est le film qui sortira le 15. On va prendre quelques.
Mais c'était mon rêve de faire Taratata quand j'étais gamin. Ça va te rajeunir aussi.
Ça, c'est moche.
Mais non,
ça,
mais c'est vrai. Ça, non, c'est mais moche. C'est vrai. Mais il faut l'entendre. Ça fait partie de la vie, Nagui. Mais quand j'étais gamin, ce que je raconte dans le film, quand je lui dis j'aurais rêvé d'être sur les routes et de faire la musique avec mes potes et tout, mais j'ai toujours voulu être musicien, être chanteur, être rocker, et je rêvais quand je voyais Taratata, je me voyais le soir, je m'endormais en m'imaginant être invité de Taratata.
Ouais, mais sauf que Taratata.
Taratata en disant non, quel
non, non, mais t'as raison. Sauf que Taratata est né, tu avais 21 ans. Ouais. Voici non, donc le côté quand j'étais enfant. Non, mais quand j'étais gamin, je regardais Taratata. T'avais 21 ans.
Bah oui, bah c'est bien. C'est ça.
Si vous voulez, je me mets d'accord. J'avais 20 ans. Guillaume jouait dans La Plage de Danny Boyle. Et toi, tu te connaissais comme mon doudou depuis que j'étais petite.
Mon doudou.
Bah, à la télé, je te voyais la télé depuis que j'étais petite.
93.
Ce truc qui sert fort dont tu mords l'oreille, le doudou.
Oui, c'est ça.
On peut parler de Guillaume Canet.
Non, mais c'est pour vous mettre d'accord.
Et justement, on va commencer en 93.
J'avais pas du tout 20 ans. Hein.
Ah,
en 93, j'avais pas du tout 20 ans, mais j'ai 43 ans, moi.
Eh ben.
Eh ben alors,
mais non, parce que 97, quand j'ai fait La Plage, j'avais 20 ans.
Non, mais attends, si t'as 43 ans maintenant.
En
93, oui, non.
93, 20 ans.
Ouais, c'est vrai, bah oui. Bah oui, je ne sais pas compter.
Nagui, t'imagines, on est en direct, la gênance du truc.
Ah non, on va l'enlever au montage, t'inquiète pas.
Vous avez bossé combien de temps? Gardez-le, au contraire. Ça fait partie, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui.
Ça vous rend humain.
Donc, en 93, lorsqu'il était.
C'est l'âge.
Lorsqu'il était. Justement,
c'est l'âge. C'est que le mec ne sait même plus compter.
Écoutiez. C'est pas le titre de Janis Joplin le plus connu, mais ça fait partie en tout cas de votre culture musicale, Janis.
Oui, non, en fait, c'est parce que c'était un morceau que j'ai choisi ce morceau-là parce que c'était mon premier court-métrage qui s'appelait, enfin, Sans Regret. Ouais. Et j'avais mis cette musique-là dessus et c'était juste pour raconter ça. C'est la manière dont je travaille. C'est toujours en fonction souvent d'une musique qui m'inspire une histoire. Et cette musique-là m'inspirait une histoire que j'ai écrite, que j'ai tournée, que j'ai réalisée. Et puis après, j'avais plus les droits. Et je me suis retrouvé coincé. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Serge Perratonnerre et Yannick Tops qui étaient dans un restaurant italien qui s'appelait la Sardegna, à côté de où j'habitais.
Yannick Top est un producteur, mais aussi bassiste. Il faisait partie de Magma.
Et ils m'ont aidé à trouver un morceau pour mon premier court-métrage. Et voilà. Donc ce morceau-là, c'est resté un morceau pour moi assez important.
Mais ça veut dire que rock'n'roll est aussi partie de...
Ouais.
J'adore.
Paradis.
Ah oui, je connais par cœur.
J'ai vu le film 150 fois, donc si je la connais pas par cœur. Mais entre autres, c'est parti aussi de. Oui, moi j'adore Demis Roussos et les Aphrodite Childs. J'adore pas forcément les parties françaises, mais en anglais.
Ouais. Ouais.
Mais c'est parce que ça fait partie de notre vie aussi. Il y a des trucs qu'on aime dans la vie et que les gens trouvent ringues. Mais à un moment, faut assumer quoi.
Moi j'adore Daniel Morin.
Ouais, mais c'est une vanne par contre. Mais je suis sûr qu'il y a des choses que tu aimes bien.
C'est pas une vanne.
Mais je suis sûr qu'il y a des choses que tu aimes bien.
J'écoute du Pierre Bachelet en cachette.
Et que tu n'oses pas forcément dire. Voilà, et c'est ça qui m'amusait, c'est de le dire ouvertement.
En 2003, vous êtes avec au cinéma avec Marion Cotillard et vous écoutiez. C'est une vanne que vous écoutiez Edith Piaf ?
Non, c'est en fait le truc, c'est que sur le film, il y a La vie en rose qui est déclinée par plein d'artistes, en fait. C'est la BO du film, en fait, ouais. Sur Jeux d'enfants. Et c'est le film sur lequel on s'est rencontrés, si je puis dire. On avait passé avant, on a été potes depuis très très longtemps. Et en fait, il y a eu cette histoire après derrière avec, avec Piaf. Avec la... Donc voilà, c'est vrai que c'est une chanson qui est assez.
Marquante.
Marquante, ouais. De notre vie, quoi.
Et les, ces Jeux d'enfants, le Tepa Cap, c'est un peu aussi
sorte
de rock'n'roll.
Ouais,
aussi,
mais c'est pour ça que quand j'entends des gens aujourd'hui
moment,
dire.
Est-ce qu'il y a eu un moment avec Marion, vous étiez à la maison, et est-ce que Marion vous a dit Tepa Cap ou chiche de faire rock'n'roll?
Il y a
eu un doute. Est-ce qu'il y a eu un
non, pas du tout. Non, aucun doute. Et puis quand, elle a, quand j'ai parlé du film, parce que je fallait quand même lui en parler avant, mais si elle n'aimait pas, ça aurait été un truc. Mais le cap ou pas cap, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'est aujourd'hui quand les gens voient les trucs sur Instagram en disant ah, mais c'est de la promo, ils sont prêts à tout maintenant pour faire des films. Mais ce qu'ils oublient, les gens, c'est que moi j'ai commencé dans un ananas, hein, quand même. C'est le premier truc que j'ai fait, c'était une pub pour de la charcuterie où j'étais déguisé dans un ananas. Donc la peur du ridicule.
Ah, je croyais que c'était Hollywood Chewing Gum.
Non, ouais, il y avait avant Hollywood Chewing Gum, il y a eu un institutionnel pour la charcuterie. Qu'avec Marion, on a joué pendant tout le film à l'époque. Ah, elle devait aller photographier une bite d'un technicien. Ça, c'était son cap à elle. Moi, je devais draguer un serveur devant les producteurs au restaurant et lui demander son numéro. Enfin, on faisait des conneries déjà avant. C'est-à-dire que maintenant, comme on fait un peu plus de tapis rouge et un peu plus de couverture de journaux, bah, les gens pensent qu'on est chiant.
Vous êtes
qu'on est juste chiant, bah, et qu'on rigole pas, glam, ouais. Qu'on s'amuse pas, qu'on est que dans le glam. Mais non, Marion pète aussi au lit, ça lui arrive de temps en temps.
Mais c'est drôle au cinéma.
Mais non,
on n'est pas chez Mireille Dumas, arrêtez.
Mais je m'en fous.
Si, gardez. Non, moi je veux pas.
Mais Mireille Dumas pète au lit aussi.
Mais ça se voit capillairement d'ailleurs.
Mais vous le couperez. Alors, non, mais faut pas croire. Enfin voilà, faut pas croire tout ce qu'on nous raconte. Voilà.
Bah, y compris ce que vous racontez
y
maintenant.
Ce que je viens de dire.
Voilà, exactement. On a demandé à Camille Rocher de. Merci Camille de venir ce micro.
Merci.
Vous êtes psychologue et thérapeute de couple. On avait besoin que vous analysiez de Guillaume et de Marion. Vous tenez un blog qui s'appelle À nous tous.
Oui, tout à fait. Anoustous.com. Voilà, c'est un blog que j'ai depuis 5 ans. Ouais. En fait, le but, c'est d'enlever un peu le côté tabou autour de la psychologie et de montrer que...
Aider le couple aussi.
Aider le couple, évidemment, voilà. Et de montrer qu'on peut... C'est pas que pour les fous et il y a plein de choses intéressantes à voir.
Alors, ce qui est intéressant dans Rock'n'Roll, c'est que, évidemment, on rit, on s'amuse et ils égratignent tous leur image dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est aussi un regard extrêmement intelligent, ouais. Sur le cap de la quarantaine, sur des remises en question, sur la manière de vieillir, de continuer de s'aimer ou pas, supporter ou pas. Est-ce qu'elle existe, cette crise de la quarantaine, ce démon de midi dont on parle souvent, et dont Michel Bernier d'ailleurs avait fait un spectacle aussi. Cool.
Alors en fait, ouais, la crise de la quarantaine, c'est-à-dire que je parlerais plutôt de la crise du milieu de vie. C'est pas forcément la quarantaine. Aujourd'hui, ça
peut être la cinquantaine.
Ça peut être la cinquantaine. Il y en a qui la font à 30 ans, mais voilà. C'est vraiment la crise du milieu de vie. C'est un moment où je vais avoir un chamboulement dans ma vie et je vais commencer à me poser des questions, à faire un bilan sur ce que j'ai fait, les engagements que j'ai pris, tout ce que j'ai pu mener dans ma vie et ce qui va se passer après. Et ce qui me reste à vivre. Voilà,
est-ce que le point de départ est comme dans le film, c'est-à-dire d'abord un regard des autres, de soi-même, sur soi. C'est-à-dire avant de regarder son entourage, c'est d'abord comment je suis vu, observé, et l'image que j'ai de moi devant ma glace le matin.
Ah bah, moi, j'ai vu le film et vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper fin. Je pense que, enfin, je sais pas s'il y a eu un gros travail derrière sur l'analyse de cette crise de la quarantaine. Mais franchement, c'est hyper fin. Et en fait, c'est comme ça, c'est vrai que c'est délirant. Ouais. Mais derrière, il y a vraiment, c'est hyper fin, il y a tous les éléments de la crise de la quarantaine et c'est vrai qu'au début il y a vraiment cette question de mon image sociale, ce qu'on appelle le personnage social, ouais. Qu'est-ce que je montre à l'extérieur de moi et c'est vrai, comme le disait Guillaume tout à l'heure, c'est clair qu'il y a vraiment aujourd'hui un accent hyper important sur ce personnage social, qu'est-ce qu'on pense de moi avec en effet toutes les photos qu'on peut mettre de soi, l'attente des commentaires qu'on va avoir sur ce qu'on poste, tout ça.
C'est l'histoire aussi du nombre d'amis qu'on a sur Facebook,
voilà,
de gens qui suivent sur Twitter, Instagram, c'est-à-dire voilà, comment je suis
comment je suis perçue à l'extérieur. Voilà, quelle est mon image à l'extérieur.
D'autant que dans le film, le personnage de Guillaume Canet est en souffrance quelque part par rapport à la notoriété aussi de sa femme. Donc on inverse aussi un code traditionnel, c'est-à-dire que là, il a appelé Monsieur Cotillard quand il va chercher les légumes. Ah, donc c'est aussi qu'est-ce que donne à voir un homme de son âge qui a eu une carrière qui semble quelque peu effacée par celle de sa femme. C'est ça aussi qui est intéressant dans la problématique de l'homme qui généralement est celui qui brille et qui attire la lumière.
On l'a dit en début d'émission, c'est l'homme qui a peur de vieillir, alors que souvent, je repense, il y a même des chansons d'Olivia Ruiz aussi où elle dit je fais attention à mes fesses ou ainsi. Enfin, elle parle de la femme qui a peur de voir son corps qui change et qui vieillit. Est-ce que c'est cette crise de la vous avez dit quoi
du milieu de vie, milieu de vie on peut dire crise de la quarantaine.
Non, je voulais reprendre du milieu de vie est propre aux hommes, aux femmes, ou c'est vraiment la parité qui marche à nouveau?
Alors en fait c'est intéressant parce que ça, honnêtement moi dans mon cabinet en tout cas je reçois autant d'hommes que de femmes qui vivent cette crise là voilà, qui tout d'un coup ne se reconnaissent plus, prennent des choix qu'ils n'ont jamais pris, l'entourage ne les comprend plus, il y a des transformations parfois corporelles véridiques
ça commence par quoi? Est-ce que ça commence par quand on est en couple, par tromper? C'est-à-dire la crise de la quarantaine, c'est je quitte ma femme ou je quitte mon mari et je vais vers une plus jeune fille ou un garçon plus jeune que mon mari.
Alors ça, en fait, c'est pas mal un cliché. C'est-à-dire que si on est face à ça, on peut se dire, ok, on est sûr, c'est la crise de la quarantaine. Mais parfois, c'est beaucoup plus insidieux.
Si on quitte son foyer, là, on peut dire, ok, là, il y a un problème.
Non, mais
le cliché.
Non, mais le cliché par rapport à.
On n'est pas obligé de quitter le foyer pour avoir une crise.
Oui, exactement. C'est pas si jamais. Mais en effet,
on peut draguer la psy, par contre.
vous faites draguer par des quadras qui sont.
Il faut préciser que Camille est très mignonne, c'est pour ça que vous posez ce genre de questions aux bandes de morphales que vous êtes.
Sinon, je parle pas aux gens. Répondez-moi.
Non, c'est l'interrompre, développer le propos.
Pas trop le sujet.
Un petit moment de gêne quand même.
Un petit moment de gêne.
Non, mais après, si vous regardez, il y a l'histoire du transfert qui fait qu'en effet, on est la personne qui écoute, donc forcément, comme aujourd'hui, on est dans une société, on se sent assez seul et pas écouté. C'est clair que le psychologue. On a tout un travail à faire là-dessus parce que on peut être la personne bienveillante tout d'un coup. Voilà.
Alors, revenons non pas à cet épisode de drague de Daniel Morin qui est marié avec un enfant. Merci.
Non, je suis marié avec une femme.
Oui, mais de temps en temps,
on a dit qu'on le disait pas à l'antenne.
Mais de temps en temps, il fait de l'échange.
Il
me dégoûte.
Pour cette nuance que vous avez apportée, dans un couple, dans une famille, il peut y avoir une crise sans que le foyer en lui-même explose dans un premier temps, en tout cas.
En fait, c'est hyper insidieux.
Donc c'est l'image, la première.
C'est l'image que j'ai de moi. Et en fait, le problème, c'est que mon conjoint va venir représenter ce que je n'aime pas de moi parce que ça va être là. Il va faire partie de mon personnage social. Voilà, le fait d'être en effet en couple avec un enfant, de revenir tous les soirs à la même heure, tout ça. Finalement, ce que je vais commencer à me reprocher, je vais le voir évidemment et je vais le projeter sur mon conjoint. Et c'est pour ça qu'en général, c'est une période où il y a une grosse crise dans le couple.
Alors ça se concrétise.
On projette tout.
Comment est-ce que ça se concrétise par je vais perdre du poids, je vais muscler, je vais m'habiller différemment, je vais manger sans gluten, je vais
devenir quelqu'un d'autre.
Je vais devenir végétarien.
Ouais. Devenir quelqu'un d'autre.
Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ça.
Créer un personnage idéal à nouveau. Ouais. Quoi.
Et ça reprend un peu la crise de l'adolescence. On a un idéal de soi et là c'est essayer de réaliser un peu mes fantasmes, l'idéal que j'avais de moi et je me rends compte là où jusqu'à 40 ans je me disais je sais que je vais mourir un jour mais bon je me sens quand même tout puissant, là à 40 ans on se dit ok je sais que vraiment je vais mourir un jour il va falloir que je réalise tout ce que j'ai pas pu réaliser et essayer de gagner du temps sur ce temps qui avance.
Alors ce que vous racontez c'est extrêmement positif cette crise.
Mais c'est intéressant que vous disiez ça Nagui parce que c'est vrai que le mot crise
11h52.
Mettez une cassette.
Non mais le mot crise, on projette un truc hyper négatif alors qu'en fait c'est juste une adaptation à une nouvelle vie qui s'annonce
c'est
à
quoi,
moi.
Alors, un redémarrage.
Alors c'est pas forcément. En fait ça peut être très destructeur si en effet du jour au lendemain je balance tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. Là ça peut être destructeur parce qu'on peut faire souffrir les autres, on peut laisser. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ça parce qu'ils se retrouvent sans parents et ne comprenant plus du tout ce qui se passe. Mais ça peut être aussi positif parce que il y a beaucoup de surtout chez les femmes, c'est en général un peu plus, ça peut être plus positif. positif parce qu'elles vont commencer à investir l'extérieur, à se permettre des activités du temps qu'elles ne se prenaient pas avant. Oh, et voilà, donc ça, il peut gêné, y avoir.
C'est toujours elle, c'est toujours elle qui en fait. C'est quand même dingue ça. Et est-ce qu'il y a une période? Est-ce qu'elle dure un an, deux ans? Ou est-ce que c'est carrément un virage et ce virage est pris ad vitam aeternam? On est quelqu'un ouais. d'autre, une deuxième partie de ta vie?
Alors ça, c'est la question que je déteste le plus parce que j'ai beaucoup de conjoints.
Ça va un peu plus longtemps, t'as parlé d'intelligent.
En fait, il a... Non, mais il y a beaucoup de conjoints qui souffrent de voir leur conjoint qui est en pleine crise et qui comprennent rien, qui s'en prennent plein dans la figure et qui viennent me voir en disant mais Camille, dites-moi, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Et en fait, moi, je suis dans la capacité de répondre parce qu'il y en a qui vont prendre le recul tout de suite, comme disait Guillaume tout à l'heure, mais c'est complètement, c'est ridicule, c'est ce regard que j'ai sur moi. Ok, j'accepte d'avancer et puis c'est tout. Et il y en a d'autres, ça peut durer et très longtemps. Et puis à un moment donné, on a fait tellement de pas de destruction que finalement, pourquoi revenir quoi.
Il y a aussi la question, c'est où est le problème d'être vieux? D'avoir eu un parcours et après de se dire... la question, c'est est-ce qu'on en a plus...
C'est de l'accepter.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a plus derrière nous ou devant? Or, ce que j'entends...
Dans...
Ce que j'entends, Camille, dans vos explications, c'est que c'est plutôt un redémarrage, une renaissance que je ressens comme étant positive. Qu'un garçon se dise je vais arrêter d'avoir la bouée autour du bide, je vais faire attention à ce que je mange, je vais me remettre au sport parce que je suis à 40-50 ans et je veux pas non plus me laisser aller. Je ne vois que du bon dans tout ça.
En fait, il y a deux axes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une phase très positive.
Faut trouver un autre nom que crise, quoi. Faut pas l'appeler crise à ce moment-là.
Ouais, en fait, je crois que ça devient
hyper
positif.
C'est pas de sa faute, hein.
Un peu quand même, sur la
réussite. Ça devient hyper positif à partir du moment où je me dis oui, j'accepte que j'ai cette crise, ok, ça m'arrive, je l'accepte, mais maintenant plutôt que de vouloir absolument changer tout l'extérieur, me poser la question sur l'intérieur, est-ce que je peux faire pour pas tout mettre en l'air et pas tout rejeter de tout ce que j'ai construit, mais
garder les fondamentaux,
des petits changements. Ouais, et parfois ça peut demander aussi des changements importants en couple. Je sais pas, on réalise ce rêve de partir à l'étranger qu'on n'a jamais fait, et puis tant pis, on se posait plein de problèmes avec les enfants, tout ça, c'est pas grave, on y va, et c'est du coup positif.
Mais je pense que c'est aussi, il faut garder le cri en fait dans la crise, c'est faut garder le cri qui est à l'intérieur, qui il faut l'écouter, il faut simplement écouter ce cri de l'intérieur. Et je vais écrire des chansons maintenant.
Le cri de l'intérieur, c'est Bernard Lavie qui l'a déjà fait.
Non, mais voilà, et savoir l'écouter, simplement essayer d'agir en fonction de ce qui...
La sexualité fait partie du problème, entre guillemets, de ce virage-là aussi.
Ça va être dégueulasse.
Ouais. Non, mais ça en fait partie parce que, évidemment aussi, il y a une baisse des capacités physiques, clairement. Bon. Ça, on peut...
Il est plein de mots, Daniel.
Après toi, de la part de qui?
Mais après, encore une fois, c'est important d'arriver, enfin de ne pas se dire c'est catastrophique, il faut que
je vous présente ma femme, il y a un truc qui va pas.
Non, mais justement, de se dire on est peut-être rentré dans des habitudes, il faut peut-être changer un peu ça, parce que si je vois que je commence à être tenté par des gens à l'extérieur.
Mettons un peu de piment dans notre vie sexuelle, arrêtons de ronronner, de faire des proutolis et passons à autre chose.
Non, mais je fais autre chose, je lui dis aussi que je vais la baiser comme une bonne grosse salope aussi.
Oui, mais c'est vrai.
C'est pour un rôle.
Non, je parlais du film.
Continuez sur le cul, j'écoute.
Oui, on peut pimenter sa vie ou éviter de tomber dans le train-train quotidien.
Oui, exactement. Mais après, on a toujours aussi une image hyper négative du train-train quotidien, mais il y a un côté hyper sécurisant. Et en fait, des gens qui vont commencer à fuir ce train-train quotidien peuvent se retrouver hyper seuls dans une chambre d'hôtel avec plus de famille et plus rien. Et en fait, regretter ce train-train quotidien parce que tout d'un coup, on est insécurisé et on se retrouve tout seul.
Camille Rocher, psychologue, thérapeute de couple, membre de la Société française de thérapie familiale, j'ai oublié de le préciser, pardon. Et vous tenez votre blog qui s'appelle À nous tous, qui traite au jour le jour de problèmes de couple, de famille aussi, tous les sujets, même de l'individu. Merci Camille d'avoir apporté votre savoir, votre connaissance. Rock'n'roll, on l'a dit, il s'agit de beaucoup d'humour, mais aussi de ce regard sur la crise de la quarantaine. Daniel Morin, oui. Cette crise peut toucher tout le monde, même ceux qui paraissent à l'abri et à l'écart de cette crise.
Oh, mais merde!
Quoi?
Arrêtez, vous allez me rendre godin, comme on dit chez les jeunes toxicomanes. Votre lucidité me fascinerait et m'étonnera toujours, monsieur Guy. Et pourtant, Dieu sait que la quarantaine est une période de vie que vous avez dépassée depuis hyper longtemps. Enfin, quand même, la sénilité n'est pas une raison suffisante pour dire autant de conneries. En tout cas, en ce qui me concerne, ayant fêté mes 39 ans la semaine dernière, j'aborde cette partie de mon existence avec beaucoup de sérénité. Hein. C'est en tout cas ce que je me disais ce matin, et ce que je disais au réveil matin en enfilant mon jean baggy, mon t-shirt hashtag lol, et en écoutant Maître Gims. Hein. Moi, ma quarantaine sera sereine, j'en suis persuadé. Pourquoi ? Parce que je suis déjà passé par tous les affres de la crise de la quarantaine, et ça, hyper jeune. Oui, à 23 ans, je me suis dit un matin, putain, je suis vieux. Je suis vieux, mais c'est pas une raison. Merde, je vais quand même pas rester toute ma vie avec ma gonzesse, qui déjà aujourd'hui n'est plus très fraîche du haut de ses 22 ans. Non, il me faut une nana plus jeune. Je suis sorti avec sa petite sœur. Ce qui m'a beaucoup rassuré sur mon pouvoir de séduction toujours intact. Et je peux vous dire qu'elle était plutôt fière, elle aussi, quand j'allais la chercher à l'école. Ouais. Au niveau du véhicule aussi. Très très jeune, à 15 ans, la pulsion d'acquérir un bolide à sensation pour me débarrasser du côté pépère affiché par celui que j'utilisais. J'ai viré le guidon de ma mobilette que j'ai remplacé par un volant de Renault Fuego. J'avais une impression de puissance, je me prenais pour Bernard Tapie. Voilà, monsieur Guy, vous voyez bien qu'avec quelle maestria j'ai maîtrisé très jeune les clichés du besoin de véhicule de frime et de la conjointe plus jeune. Je ne suis pas un canic. Comme quoi, on peut aborder la quarantaine en toute sérénité, ouais. S'épanouir au soleil de la maturité sans être menacé par l'ombre de la crise existentielle du quadra. Une fois encore, vous avez dit...
N'importe quoi.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Suzanne Edgeburn, c'est dans la bande originale.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. You know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you need to tell her that you've got no love to give her, and she gets you on a wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. And Jesus was a sinner when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sinners then until the sea shall free him. Oh, but he himself was broken long before the sky would open. For a second, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. And now Suzanne takes your hand, and she takes you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun it pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she tells you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They will lean that way forever. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror.
Le meilleur de la bande originale, ça continue jusqu'à midi et demi avec Clémentine Sélary et Pierre Cassignard, et en live Thomas Fersen. Mais tout de suite, les infos sur Inter. Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Pierre-Emmanuel Barré. Nos invités sont Clémentine Sélary et Pierre Cassignard. Vous retrouverez en live également Thomas Fersen. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est parti. une belle histoire d'amour. Au début même, je me suis dit, ça va finir en histoire d'amour aussi entre eux, parce qu'il se passe quelque chose, forcément, entre cette maman qui, par amour pour son fils, veut lui donner du piment dans la vie, veut lui ramener comme ça des souvenirs en tête, lui procurer des joies, des plaisirs, le faire voyager alors qu'il ne peut plus bouger. C'est la mission qu'elle donne à Paul, qui est un professionnel pas spécialement à la retraite, en tout cas, qui s'est mis hors circuit, qui a arrêté de bosser, de créer.
Et ranger les voitures un peu fatiguées.
Parce qu'il est veuf, parce qu'il a perdu sa femme.
Mais c'est vrai qu'il a perdu sa femme, c'est important.
Mais c'est vrai qu'on se dit,
il y a peut-être moyen de moyenner. Ça serait bien qu'ils terminent ensemble.
Mais justement, c'est ça qui est top.
Il y a moyen de moyenner.
Non, c'est ça qui est bien.
Peut-être qu'à un moment donné.
Sur scène, je veux dire, en tout cas, après.
Oui, après,
on laisse l'imaginer.
Un rapport sensuel entre les deux.
Voilà.
Oui.
Olfactif.
Voilà, exactement. Les sens sont en éveil tout au long de cette.
Pourquoi pas Darius II?
C'est en cours.
De cette pièce. Darius étant le nom, justement, de votre fils qui ne peut pas voyager, que vous allez faire voyager. Vous n'allez pas lâcher le professionnel pour qu'il obtienne des résultats. Il y a aussi un rapport de je suis cliente, je paye, j'y ai droit, donnez-moi ce que je veux aussi.
Et j'ai mis tout mon argent pour ça. J'ai économisé avec mon ex-mari, donc le personnage. Tout le monde sait que je n'ai jamais été mariée. Donc, non, je rigole. Et donc. j'économise et je veux que tout ça ce soit qu'il y arrive. Il y a un moment dont je voulais vous parler que j'adore dans la pièce, c'est quand tu dis toi Pierre, donc Paul, il me dit j'ai fait le parfum de Rochefort. Je demande qu'il fasse le parfum de Demoiselle de Rochefort parce que mon fils adore le film. On l'a regardé ensemble et tout, c'est ce que je raconte. Et alors et lui le fait, donc il va à Rochefort et il fait le parfum, mais il se rend compte qu'en fait il a oublié la pluie. Non,
c'est parce qu'en fait elle a visité Rochefort avec son môme.
C'était pas la même météo.
Un jour de pluie, voilà.
Oui, c'est génial. Et donc ça change tout la pluie. Évidemment. On sait que ça change tout. Donc ça, j'adore ça. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Moi, je pensais tout à l'heure aussi que je trouve que le parfum, c'est comme la radio, parce que c'est un espèce de fluide comme ça qui éveille l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on peut, comme disait Dora tout à l'heure, ce nez, cette parfumeuse, ça éveille tout un tas d'images et de voyages et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'elle, comme il n'a plus que ce sens, son fils, ce sens et peut déclencher tout un tas de. C'est pour ça que je parlais des films asiatiques, de leur coréen, tout ça. Il y a cette sensualité dans ces films-là. Il y a ça dans la pièce. C'est une espèce de côté comme ça. On se touche jamais dans la pièce.
Ah, on
est ensemble.
Les mêmes, alors, pardon, autant pour moi.
Non, c'est ça. Vous ne vous touchez jamais parce que à la base, dans le roman de Jean-Benoît Patricot, c'est que de l'écrit, c'est que de la correspondance. Même s'il y a des correspondances après des rencontres, mais on n'assiste pas aux rencontres. On n'a que l'avant ou l'après ou
l'échange. Si on se touche une fois.
Si. Oui.
Oui. Et là, les spectateurs font watch out.
Il faut comme
et c'est
ça.
Très très chaud.
Il faut comme ça. Ouais, watch out.
Bang, comme dirait Pierre-Emmanuel Barré. Bon, voici la délicatesse et la qualité, l'excellence avec Clémentine Sélarié et Pierre Cassignard au théâtre Darius et au théâtre des Mathurins. On passe de cette excellence à l'extrême inverse avec Daniel Morin.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Ou alors, j'ai pas compris ce que veut dire excellence.
Alors, tout d'abord, je tiens à rassurer la France métropolitaine, les dom-toms également, je vais mieux.
Oh, le boulard.
En toute simplicité.
J'ai été souffrant ces dernières 48 heures, mais ça va mieux. Les progrès de la médecine et ma force de caractère ont eu raison du vicieux virus qui s'est abattu sur ma pauvre carcasse. Et bien sûr, merci mille fois de vos soutiens, mes collègues. Merci de vos messages. Merci Leïla.
Oh,
merci
chéri.
Richard. Et voilà.
C'est vrai.
Alors,
non.
Tom Villa, j'espère que rapidement tu vas attraper la peste ou la tuberculose pour que je ne t'appelle pas. Quant à vous, Nagui, vivement votre prochaine syphilis. Que je me marre demain à 16h en vous imaginant en train de pleurer face à vos toilettes. Sinon, Richard et Lila, vous pouvez y aller sans crainte. Hein, je serai à l'affût pour vous remonter le moral. Bon, à part ça, excellente nouvelle, les amis. Et oui, aujourd'hui, c'est les soldes! Moins 30, moins 50, moins 70%. Un vent de folie souffle sur nos boutiques. Profites-en, Nagui, achète-toi de vraies chaussures! Oh, si tu savais comme ça nous fend le cœur de devoir porter ces souliers de bowling! Alors, c'est le moment, lâche-toi, achète-toi une paire de kickers, tu auras la classe, mec! Pas mal. Il a été faire les courses avant l'émission. De ton côté, Tom Villa, profites-en pour changer des... Pour tout changer, Tom Villa! Ah là là, je ne commettrai pas l'erreur l'erreur de demander à Richard d'en profiter pour changer sa garde-robe. Je l'ai fait il y a 10 ans, mais comme il a toujours les mêmes fringues, aujourd'hui, c'est plus une faute de goût, c'est un style. Bien vu, mec, tu déchires. Bref, profitez-en. Autre excellente nouvelle, après George W. Bush et sa tête de président micro-pénis, après Barack Obama, la classe internationale, ça y est, enfin, un président américain qui a du relief. Donald Trump est officiellement un de mes héros. Il aurait fait une sextape. Comme Valbuena et sa femme. Comme Paris Hilton et tous les clients des hôtels qui portent son nom. Comme Patrick Cohen. Comme Patrick Cohen avec toutes les femmes de ménage du cinquième étage de Radio France. Oui, je sais, comme toi, Pierre-Emmanuel. Mais toi, ta sextape, tu es tout seul, tu fixes l'objectif en souriant. Et ça, c'est très, très gênant.
C'était pour un casting pour Morandini.
Donald. Oui, tu as été pris, j'imagine. Enfin bon, Donald a fait une sextape, il l'a pas vraiment faite. Hein. Sextape a été tournée à son insu quand il était en visite en Russie en 2013. On y verrait Donald en train de faire des cochonneries avec des prostituées à Moscou. Bon, enfin. Bon, t'inquiétez, Donald, tout va bien, c'est pas grave. Non, sérieux, il est où le scandale? Il est où le scandale? Il est où, comme dirait un ami proche de notre ami Nagui. En Russie, c'est du folklore, c'est pas interdit, c'est un cadeau de bienvenue. Et si tu voulais être filmé en train, si tu voulais pas être filmé plutôt en train de faire les talons VIP, avec des prostituées, en plus, il y a des endroits pour ça. Le Carlton de Lille. Crois-moi, DSK, il a usé du matelas au Carlton, et pas une seule image n'est sortie. Et crois-moi, hein, si on en croit Dodo la Saumure, il y avait de quoi tourner une saga. Tu compares l'intégrale DSK à l'intégrale Star Wars, ben les aventures de Chewbacca, c'est un court-métrage à côté. Non, c'est toi qui as raison, mon Donald. C'est toi qui es dans le vrai. Bon, je vous laisse. Je dois aller acheter des kickers pour qui vous savez.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Darius, cette pièce démarre toujours un peu délicat de savoir s'il va se passer d'autres choses dans vos carrières, mais elles sont denses, ces carrières. Clémentine, il y a beaucoup de projets aussi, à part Darius au théâtre.
Oui, il y a 24 heures de la vie d'une femme en tournée. Heures, voilà. On a tourné Les Bovis, contre Les Bovis,
ah, c'est pour génial,
France 2.
Génial dans ce rôle d'avocate.
Merci, on continue. Puis j'ai tourné un film complètement indépendant, autonome d'auteur, qui, en 15 jours avec Serge Yaboukine, qui va être projeté dans, je pense, 4 salles de cinéma, d'un long métrage complètement freestyle, hein, qui est magnifique, de Véronique Mériadec, qui est un très très beau film. Et puis j'ai un projet de... Je suis en train d'écrire mon deuxième roman, qui sera un film et tout ça. Donc
un film que vous réaliserez.
Que je vais réaliser, oui, vraiment. Avec mes potes, d'ailleurs, des potes de vestiaire, des potes... Un film assez indépendant aussi, un peu de... Ouais, mais un film sur la différence, sur la folie, qui est fou, qui n'est pas fou, tout ça. Et voilà, donc il faut que je termine le roman.
À propos de folie, Folamanda, vous faites partie...
Ah bah là, je vais vous quitter, je vais répéter, oui.
Aujourd'hui?
Ah oui, avec Michel Bernier, Ariel Dombal, Patrick Braudet.
Et malheureusement, Philippe Lièvre aussi.
Et malheureusement,
je suis désolé pour vous.
On perd un temps fou avec lui.
Il y a Roland aussi, Marguerite.
Il est magnifique.
Que des boulets. Ouais. Ça, c'est au Théâtre de Paris. Oui. Et puis, vous allez jouer dans C'est encore mieux l'après-midi de Ray Cooney.
Oui, Théâtre Héberto.
Donc, vous n'arrêtez pas, vous enchaînez. Vous êtes, vous êtes un comédien qui est extrêmement. On vous a vu aussi à la télé et au cinéma, mais extrêmement présent au théâtre. Bah, c'est un choix où il y a encore des cloisonnements, il y a encore des directeurs de casting ou des réalisateurs qui disent non, lui c'est théâtre, c'est pas cinéma.
Non, de moins en moins, mais c'est vrai que d'un coup, là par exemple, je suis sur 3 spectacles en même temps, c'est difficile de caser un tournage par exemple.
Vous faites une compète avec Francis Huster ou pas?
Non, avec Pierre Arditi en fait. Il m'a appelé, comme il est un petit peu crevé, il m'a dit Pierre, t'es jeune, tu vas avoir 55 ans, allez, vas-y, à toi la route.
En plus, je vois bien faire ça.
Oui, Pierre, oui.
Ouais. Non, mais c'est sympa. Berléon ferait pas ça parce qu'il est pas sympa, il n'est pas partageur, mais l'odeur. On en parle de l'odeur ou pas?
On parle pas
de l'odeur de Berléon. Okay.
Non, ça va, moi je sors de gastro, on parle de
c'est une blague, Clémentine.
Et donc vous aimez ça?
Parce que vous étiez gênée.
Vous aimez ça.
Passer de Darius à Folamanda.
Être au théâtre tous les soirs, avoir plusieurs spectacles même qui se croisent entre ceux qui sont en tournée,
je suis heureux là, je peux rien vous dire. Je suis heureux quand je répète, je suis heureux quand j'ai les beaux textes.
Ça nécessite une hygiène de vie particulière?
Non, parce que franchement, je me couche très tard, je picolais pas mal. Et là, par contre, j'ai perdu 8 kilos. Hey! Et je me si, là, pour faire 3 spectacles de front, je suis obligé d'avoir...
Il faut faire attention.
Ouais, bien sûr. Ouais, là, je fais très gaffe. Ouais.
Votre outil sont les cordes vocales, votre bien physique, sûr. Votre ouais, forme, ouais, il ne faut ouais, pas ouais, être ouais. démonté. Ouais. Et la mémoire. Comment ne pas se mélanger les pinceaux dans les textes? Comment passer d'une scène à une autre en 24 heures et être capable de...
Je me suis télescopé un petit peu là, entre le texte de Folamanda Darius et puis plus et, Berthaud, les, ouais. et plus la première approche, plus ben là je suis complètement sur Folamanda parce qu'on commence vendredi soir. Donc hop, je et puis tout de suite après je vais être complètement sur Darius et voilà. Non non, mais c'est fastoche.
Fastoche, ouais, ouais, je crois. Non, fastoche. Non, non. C'est du boulot et du bon boulot. Parlons et du bon boulot avec le bouillon de culture de Leïla.
Oh, le traitement par rapport à votre.
C'est naturel. C'est naturel.
La vie est injuste, Clémentine, Pierre, c'est notre bouillon de culture. Je vous sors un peu de la promo, histoire de parler de vous et d'apprendre à mieux vous connaître. Wow. Je crois que vous aimez bien mon générique. Ouais. Et justement, on commence avec vous, Clémentine, un son pour vous.
Le doute, c'est le premier pas vers la liberté. Dès l'instant où je doute, j'ai un choix. Donc j'accède à la liberté, alors que dans la religion imposée, il n'y a qu'une vérité, celle qu'on vous impose, celle de Dieu. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez que la solution de vous soumettre, ce que beaucoup de gens aiment, puisqu'un très grand nombre de dictateurs ont été élus.
C'est une voix que vous aimez, celle
Boris Cyrulnik.
Boris Cyrulnik, qui préfère donc, on l'a compris, le doute à la religion. Et votre découverte de Boris Cyrulnik a changé beaucoup de choses chez vous. Vous nous expliquez un petit peu, Clémentine.
Merci, c'est la radio. Ouais. La radio, il se passe beaucoup de choses par la radio. J'ai découvert aussi Jacques Rougerie, hein, qui est un mec incroyable. Bref, Boris Cyrulnik, j'ai entendu cette voix que je trouve d'une douceur et d'une sérénité. Enfin, et il m'a touché beaucoup. Donc j'ai voulu le rencontrer dans une émission de télévision à l'époque. On était dans une voiture, vous savez, on conduit chacun un tour de rôle. Ça s'appelait, je sais plus quoi, enfin bon, peu importe. Et donc vous êtes bloqué avec quelqu'un en voiture pendant 5 heures, c'est génial. Tout le monde croyait que j'allais choisir un homme très musclé, très beau, etc. Enfin, sportif, n'importe quoi. Et enfin, Maurice est très beau.
Vous avez de la chance, personne n'a réagi là.
C'est un sportif de l'air parce qu'il dort, il s'en fout. Mais bon, voilà. Mais donc, et c'est passionnant. Et c'était génial. Il m'a donné beaucoup de clés. En fait, à l'époque, voilà, j'avais des questions comme ça par rapport. Il m'a dit, vous cherchez la chaleur, donc en fait, c'est chouette, les êtres sur votre route qui vous aident à définir, à identifier des manques que vous pouvez avoir.
Oui, à comprendre aussi les problèmes.
À comprendre
des
trucs, voilà. Et c'est un homme que j'adore, à chaque fois que je le croise avec sa femme, j'aime beaucoup sa femme. C'est des êtres qui sont riches, vous savez, c'est comme des rencontres avec certains philosophes, avec des scientifiques, tout ça, c'est des gens qui vous...
Ce matin, pour moi, c'est ça.
Ah oui. Non mais vraiment. Hein. Et puis alors, moi, je voulais vous demander comment vous faites pour faire une émission aussi préparée avec une telle qualité d'écoute. Ouais. Moi, je suis sérieuse là. C'est très rare et c'est merveilleux. Voilà, donc,
je vous le dis.
En tout cas, vous semblez avoir en effet besoin d'être à la recherche comme ça d'hommes, de femmes qui pensent. Vous avez ce rapport-là avec Pierre Rabhi. Là, on vient de parler de Boris Cyrulnik. D'avoir besoin de faire ce genre de découverte par des lectures, par
Alors je le fais c'est mon fils qui est mon éducateur en fait. J'ai mon dernier fils qui me parle sous le temps de philosophes, il m'a parlé de Sartre il y a pas longtemps, de l'existentialisme que
transmission, c'est le retour de
c'est génial.
Retour de flamme de la transmission.
Et ça c'est fantastique. Donc j'arrête pas Pierre connaît mes fils, puisqu'on a cohabité au festival d'Avignon. Voilà, il avait mes culottes tout ça et puis mon linge pendant que je travaillais parce que j'avais deux spectacles, on s'en fout. Voilà, donc non mais c'est merveilleux quand les enfants vous
alimentent
et qui vous cultivent et qui vous apportent en plus par leur découverte. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai besoin, je trouve, en ce moment, on a besoin de ça parce que, voilà, ça nous ouvre des portes, quoi. C'est merveilleux.
On poursuit avec vous, Pierre Cassignard, une autre voix, une autre grande voix pour vous.
Moi, le joie, c'est pour leur regarder, pour suivre leur boulot, pas le mien, pour suivre leurs émotions, leurs points de vue, leurs idées. Tu guides les gens sur leur propre chemin.
Non, tu crois pas. Je crois que oui.
Ah oui, vous tenez bien.
Ouais. Vous avez reconnu, c'est la voix
de John Malkovich.
Oui, qui parle de la mise en scène de son travail sur Good Canary. Vous avez joué avec Christiane Ariely.
Oui, moi j'ai fait la fin de l'exploitation à Paris, j'ai fait toute la tournée. Et pour moi, la rencontre avec John, ça a été c'est classe de faire ça. La rencontre avec John a été, mais c'est vrai. ça a vraiment été un déclic.
Et en quoi, dans quelle mesure?
Son rapport à l'acteur, la façon de diriger sans diriger, de donner à l'acteur l'impression d'être plus qu'un interprète, plus qu'un violon, d'être un vrai créateur.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est une rencontre marquante, unique, importante, qui a fait évoluer votre jeu aussi, éventuellement, par la suite.
Alors après, c'est difficile quand on rencontre d'autres metteurs en scène. Il faut savoir être souple, tout ça. John, il laisse une liberté totale à l'acteur. Il fait une confiance totale.
mais au point que, par exemple, avec Christiana, il nous donnait l'autorisation de quitter la scène à certains moments, si on voulait, pour laisser le partenaire. Il y avait des petits happenings comme ça, ouais, qui étaient fabuleux.
Continuer à se surprendre, ouais, même sur scène. Fabuleux. Et justement, avec l'expérience que vous avez au théâtre, je me disais, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que vous n'êtes pas tenté aussi par la mise en scène? Parce que avoir collaboré avec tous ces metteurs en scène, le regard que vous pouvez porter sur la pièce, les textes, l'espace.
Eh bien, je l'ai fait cette année, une pièce qui va peut-être venir à Paris, une pièce d'Éric Roman et Bénédicte Fossé. D'accord. Avec Claire Nadeau.
Ouais.
Et voilà, une pièce qui s'appelle Mange avant que ça refroidisse. Et ouais, et ben c'est.
Je vous assure, c'est vrai. J'adore le titre.
Je vous assure, c'est vrai. Et la pièce est vachement bien. Et donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment un métier de mettre en scène. On peut pas.
C'est-à-dire.
Ben, c'est diriger les acteurs, ouais, sans les enfermer. Pour qu'ils donnent le meilleur en toute liberté, c'est un boulot, c'est un vrai métier.
Vous avez la sensation d'être quoi, trop dirigiste quand...
Non, j'ai pris un grand pied, mais ouais, c'est vraiment, ça a pris 4 mois de mon temps, ah ouais, non-stop, quoi.
Ça vous
J'adore.
Habite, quoi.
Ouais. Bon. Et puis ça repose un peu d'être acteur soi-même.
Oui, d'accord. Ouais. Ça, le regard est décalé,
ouais,
c'est encore autre chose.
Ouais.
Je finis par vous faire un cadeau à chacun d'entre vous. Pour vous, Clémentine, je vous offre Pourquoi Trump ? Comprendre les fractures de l'Amérique.
Il y a une réponse. Il y a une réponse.
Et
c'est
pas possible. Ce bouquin, c'est dans la collection Les Indispensables, sous la direction d'Éric Fotorino, qui est le patron de l'hebdo. Le 1.
Oh, super, il est formidable, j'ai lu en rendu magnifique.
Ouais, et donc là, il y a pas mal de spécialistes qui s'interrogent sur l'ascension de Trump, qui est populiste, xénophobe, misogyne. Pourquoi lui ? Pourquoi en faire le 45e président des États-Unis ?
Dès que t'as des idées.
Et ouais, je sais, je suis un peu fixe comme ça. Que dit la victoire, en fait, d'un Trump sur l'Amérique, plutôt que de s'offusquer de cette victoire ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état d'un pays, d'un monde, du parti républicain, de la question raciale, la question migratoire aussi, qui est quand même au centre des débats ? Donc ça, c'est pour vous, Clémentine. Voilà.
Merci.
Et pour vous, Pierre, je vous offre la revue L'Éléphant. C'est une revue de culture générale qui a.
Il semblerait que vous en ayez besoin.
Ouais. Mais c'est pas vrai. Mais non, c'est une revue qui est géniale. Là, c'est le 17e opus qui, en fait, sillonne plein
on
de
vous
thèmes.
A commandé les 16 ans.
Que ce soit la psychologie, l'histoire, la génétique, la politique, la musique. Donc, c'est toujours un. Par exemple, il y a un superbe article sur Beauvoir, la lutte des sexes et la lutte des classes, parce que c'est pas anodin d'associer les deux thématiques. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est le dernier épisode
gentil,
de
merci.
L'éléphant.
Elle n'est pas avec nous.
Voilà.
Hein,
elle n'est pas avec nous.
On la connaît pas.
Et je peux Darius. Vous dire un truc, oui, excusez-moi, oui. Je vous trouve très jolie.
Ah, oh, c'est gentil.
Merci.
Pierre.
Oh, Clément.
Mais qu'est-ce que c'est que ça,
ma merci, Pierre, ça me touche. Ils sont jamais gentils avec moi ici en plus.
C'est pas vrai.
Mais moi, j'aime bien votre prénom, Pierre.
Bon, Darius. Oh, donc.
France Inter. Les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Bella Ciao, Thomas Fersen, c'est en live de la bande originale.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. Passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, porto per la libertà.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Clémentine Serrier et Pierre Cassinière sont nos invités pour nous présenter Darius. Nous avons des questions courtes avec des réponses courtes. Ce sont nos cascades de questions et c'est Leïla qui commence.
Clémentine, est-ce que vous pourriez embrasser Daniel Morin sur la bouche pour défendre la cause des humoristes en mal d'aspiration?
Non, Yann Gastro. Non,
elle est généreuse, elle a dit oui.
Elle est généreuse, non, elle est inconsciente. Vous
préférez l'odeur de qui? Clémentine, s'il vous plaît. Vous préférez l'odeur de qui? Est-ce que vous pouvez passer sentir tout le monde et nous dire quelle odeur vous préférez?
Ok, en attendant.
Il le fait en plus.
On a...
C'est très radiophonique, c'est une bonne idée.
Mais c'est pas ma faute. À chaque fois, on est en retard, on fait jamais les questions. Et voilà, et là j'ai pas. Là, j'ai
rien. Ça crée un petit suspense. Il
a. Et moi?
Ouais, j'ai gagné!
Forcément,
Fleur d'oranger.
Vous sentez magnifique.
Mais moi, j'aimais Viandox ce matin.
Toi aussi, tu sens bon.
Tom, il a.
Mais toi, vous aussi.
Alors, est-ce que vous pouvez repasser chez tout le monde et nous dire l'odeur que vous détestez?
Daniel Morin.
Pierre, vous sentez quoi le matin?
Je sens le lit.
D'accord.
Il y a eu des meilleures chutes.
Je suis désolé. Hein.
Fait beaucoup de peine, Pierre.
La question est très claire.
des excuses à présenter.
Bon, désolé pour nos invités. Hein, quand Leïla a demandé à Pierre Cassignard s'il aimait l'odeur des ânes et qu'il a demandé à Clémentine Sélarier si comment elle faisait pour mettre en branle, je suis désolé, vous savez, ces intellos de gauche. Désolé pour Leïla maintenant qui a cru naïvement en l'honnêteté de Pierre Cassignard. Franchement, après 1h30 d'émission, on a bien vu que c'était un escroc pervers qui aime l'odeur du poulet basquez et de son clébard Jean-Jacques. Est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre fille? Et désolé pour tous les fans de la grande humaniste Clémentine qui ont été choqués, oui choqués, par la violence de Mademoiselle Sélarier à mon endroit, à mon égard, quand elle a hurlé « Ta gueule !» à de nombreuses reprises à mon endroit. Eh bien, pour tout dire, je suis également choqué.
Mais j'étais embrassé sur la bouche. Hein.
Blessé, mais ça va s'arranger.
Merci mille fois, Clémentine.
C'était
bien,
super.
Vraiment. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain, même heure, même endroit, rassurez-vous, il y aura Agnès Jaoui, Léa Drucker, Mylène de Mongeau, Riyad Satouf, et en live, Radio Elvis, Calypso Rose et Alidier. En attendant, c'est l'heure des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.